R22, tout le monde. R22, antenne, tout le monde. Radio Brouhaha.
Donc, sous le signe d'un lapin blanc et de plusieurs champignons que Radio Broa est vraiment heureux de faire son retour au Centre Pompidou pour deux émissions en direct et en public qu'on peut écouter sur la R22 en direct en même temps qu'on le fait ici dans le Forum Moins 1. Et comme le disait Jean-Max, depuis qu'on participe à Extra, on fait en sorte que chaque émission se consacre à un enjeu de la littérature contemporaine qui touche notamment la question du hors-livre. Cette année, il y a deux émissions, j'annonce les deux, hein, qui sont conçues en miroir d'un week-end à l'autre. L'une, ce soir, interroge l'esprit, l'autre, la matière. L'une se consacre aux influences, l'autre à l'autonomie. L'une semble presque intemporelle et l'autre est prise dans l'actualité. Et pourtant, spirit et matière communiquent. Depuis qu'on a commencé ces émissions ici, on s'est posé plein de questions sur les supports du littéraire, sur les matérialités du littéraire, sur les sociabilités, dans une perspective plutôt matérialiste, sans vraiment se poser la question de ce qui se passe entre les corps, entre les idées, entre les consciences, entre les spectateurs, entre les vivants et les morts. Or, c'est surtout entre. C'est ce que le livre ou toute autre forme littéraire peine à cadrer, peine à encoder, peine à restituer, peine à faire percevoir, et qui est pourtant là, à l'état de fantôme, de présence, de spectre, dans ce que le code nous donne à voir, à lire ou à entendre. L'expérience littéraire, c'est ce dont on va parler ce soir, entretient aussi des relations avec d'autres expériences de pensée et de vie. L'hallucination, le rêve, l'hypnose, la magie, les états de conscience modifiés, le délire, l'exorcisme, la maladie, la guérison. C'est donc à cette littérature spirit, comme elle est apparue cette semaine, littérature spirit, que cette nouvelle émission de Radio Brouhaha entend se consacrer avec des écrivaines qui font de la recherche, des chercheurs qui créent ou écrivent, qui, elles, eux aussi, se situent entre et posent leurs gestes là. Cette émission, comme les autres, refera de l'histoire, mais depuis le contemporain, avec Muriel Pic, poétesse, écrivaine, historienne et théoricienne, autrice des récents « L'argument du rêve et affranchissement », qui est en train de préparer un livre, un gros travail de recherche sur Michaud, dont je crois le titre sera Michaud, psychopharmacologue, c'est ça ?
Bonjour Lionel, ouais. Bonjour, ouais. Bonjour à tous. Michaud, psychopharmacon, peut-être que je vais changer, enfin, c'est en cours de discussion.
Ok. On en parlera aussi avec les chercheurs artistes Marc Jaja et Mélodie Faury qui nous parleront de leur pratique de l'hypnographie et du monde imaginal. Et cette émission se fera aussi avec Laure Limangy qui est habituée de ce plateau, qui déjà avec Anomalie des zones profondes du cerveau paru en 2015 traitait aussi de cette révolution psychopharmacologique, mais revient aujourd'hui pour un nouveau projet pour lequel elle est responsable du service des panacées. On en discutera tout à l'heure. Et avant de commencer, un petit son que Michaud aimait beaucoup et que Muriel, tu m'as transféré. Donc ce morceau s'appelle la chanson du culte du peyote. Et donc dans cette émission, je le disais, on a souvent travaillé avec des révolutions, et notamment les révolutions des supports, le livre, Internet et d'autres révolutions. Aujourd'hui, je voudrais qu'on commence sur une autre révolution qui s'appelle la révolution psychopharmacologique, dont je remarque, en bon littéraire que je suis, que dans ce nom psychopharmacologique, il y a trois noms très littéraires, psyché, pharmacon et logos, et donc qui entretient forcément des relations avec la littérature. Donc pour commencer, juste Muriel, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce qui t'a amené à travailler sur cette révolution psychopharmacologique, et qu'est-ce qui t'a amené à croiser le chemin de Michaud dans cette révolution psychopharmacologique, juste pour poser un peu le cadre de ce qu'on peut entendre par là.
Alors, en fait, c'est, vous savez, Michaud, il a pris des drogues de 1955 à 1960 pour ce qu'on appelle les hallucinogènes majeurs, c'est-à-dire le peyote, qui en fait est la mescaline, qui vient d'un cactus mexicain. Il a pris aussi de la psilocybine, qui est un champignon qui vient aussi du Mexique. Et il a pris du LSD-25, qui est aussi un alcaloïde d'un champignon qui poussait dans les céréales. Donc ces trois drogues, ces trois hallucinogènes majeurs, donc, qui produisent des visions, des hallucinations, il les expérimente de 55 à 60, et après il continue surtout avec le hashish. Et de manière continue, il travaille avec le hashish, je dis bien il travaille, hein, de 55 jusqu'à 66. Ça donne lieu à une centaine de dessins, les dessins mescaliniens, et à toute une œuvre aussi littéraire. Je peux vous rappeler les titres parce qu'ils sont très beaux, hein, c'est rien qu'à les entendre, comme ça on est tout de suite plongé dans l'univers de Henri Michaud, 1889-1984. Donc le premier volume qu'il a écrit avec les drogues s'intitule « Misérable miracle » en 1955. Le deuxième s'intitule « L'infini turbulent ». Donc ça, c'est vraiment, ils vont ensemble, hein, ces deux volumes. Michaud incorpore des dessins aussi dedans, et puis des notes prises sous drogue. Ensuite, c'est « Connaissance par les gouffres » en 61, et « Les grandes épreuves de l'esprit » et « Les innombrables petites ». Au milieu, il y a un texte qui a un statut plus hybride, qui s'appelle « Paix dans les brisements ». Aussi avec des dessins et une interprétation des dessins et des poèmes. Voilà. Donc moi, j'ai travaillé sur cette œuvre-là de Michaud, cette œuvre psychotrope, comme on peut l'appeler aussi, psychotrope, hein, qui tourne l'esprit, mais tous les médicaments qui ont un effet sur notre psyché, en fait, tournent l'esprit, mais les hallucinogènes, eux, sont une catégorie des psychotropes, hein, parce qu'ils produisent des hallucinations. Et donc, moi, j'ai commencé à travailler sur ces ouvrages parce que j'ai découvert dans un fond d'une poétesse suisse romande des documents inédits en 2014 que j'ai publié dans un volume qui s'intitule Mescaline 55 et qui permettait en fait de savoir un peu comment se sont passés les trois premiers jours d'expérimentation de Michaud avec cette femme, Boissonnat, qui connaissait quasiment pas, et son éditeur à la NRF chez Gallimard, Jean Paulhan. Voilà. En janvier 1955. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis très vite, je me suis trouvée confrontée à cette idée qu'on se fait que Michaud a expérimenté les hallucinogènes majeurs dans un cadre médical. Qu'est-ce que ça veut dire dans un cadre médical ? Michaud, il détestait être observé. Hein. Il supportait très très mal d'être mis en laboratoire, justement. Donc ce cadre médical, ça m'a conduite à voir comment... C'est mis en place à partir de 1950 exactement, avec le premier congrès mondial de psychiatrie, le début d'un ensemble de recherches avec à peu près tous les psychotropes possibles, aussi la cocaïne, l'héroïne, mais en particulier de 50 à 66 avec les hallucinogènes majeurs. Et le quatrième congrès mondial de psychiatrie achève en fait ces recherches avec les hallucinogènes. Ils sont sortis du domaine expérimental. Parce que la révolution, une deuxième révolution est arrivée, qui est la révolution psychédélique cette fois-ci. Donc les expérimentations de Michaud, il les fait chez lui. En fait, il négocie la substance avec les médecins, on pourra en reparler. Mais elle se situe, ces expérimentations, dans la révolution psychopharmacologique. C'est en fait la révolution qui a permis à la pharmacie d'inventer tous les médicaments que nous consommons actuellement de façon massive, hein, puisque à partir de 1966, en fait, on arrête les recherches avec les hallucinogènes et on développe toute l'industrie pharmaceutique, en fait, se tourne vers les neuroleptiques. Parce qu'en fait, grâce aux antipsychotiques, on a réussi à mettre de l'ordre dans les asiles. Et maintenant, on a de nouvelles personnes à soigner, c'est-à-dire les femmes au foyer stressées, les personnes âgées dans les EHPAD, hein, tout le monde quasiment est sous neuroleptique, déprimé, et les managers stressés, hein, pour aller vite. Donc en fait, au moment où les hallucinogènes sortent du domaine expérimental, le champ de consommation des médicaments neuroleptiques sort du simple espace de l'asile. Voilà. Mais il faut que tu m'arrêtes parce que comme je suis en train de faire le livre, voilà.
Ouais. Alors peut-être pour relier aux perspectives littéraires, en te lisant, puisqu'il y a déjà deux ou trois articles qui ont paru sur cette question, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que tu montres que Michaud se porte cobaye volontaire en poète. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un moment où sa recherche poétique a presque précédé cette recherche d'état second et qu'il va chercher quelque chose qu'il avait commencé à travailler dans la poésie, notamment sous le terme de synesthésie, sur lequel tu peux revenir. Et peut-être pour élargir la question, ce qui est frappant aussi dans cette archéologie d'un moment que tu dresses, c'est qu'il y a une sorte d'articulation entre notamment des laboratoires pharmaceutiques et des poètes, des écrivains, des artistes qui vont même produire des revues. Je pense au laboratoire Sandeau qui monte une revue qui s'appelle Sandorama, qui accueille tout ce que la poésie fait de mieux dans les années 50. Donc qu'est-ce qui fait que ce moment de la Révolution, des écrivains et en particulier Michaud, se prêtent à ce jeu-là? Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans leur recherche littéraire, quoi?
Alors, déjà, Sartre, dans les années 30, avait commencé à avait pris de la mescaline pour son essai sur l'imagination, donc c'est aussi explorer l'imagination. Ce qu'il faut voir, c'est que Michaud se présente comme un cobaye doué du pouvoir d'écrire, hein, je le cite, parce que à ce moment-là, les médecins, ils ont des difficultés parce que ils ne sont pas formés à l'écriture, ils ne sont pas formés aux formes, justement. Donc, pour récupérer... Donc, ils auto-expérimentent. Il y a trois types d'expérimentateurs. Enfin, il y en a quatre, en fait. Il y a les animaux, les aliénés, les médecins et les volontaires extérieurs, donc qui sont la plupart du temps des artistes ou des écrivains, qui, en raison de leurs compétences artistiques, peuvent ramener, mieux saisir les émotions, les hallucinations, parce que c'est une sorte de le témoignage. Là, c'est vraiment c'est l'écrit, tout ce qu'on a en fait, c'est leur récit pour savoir quels sont les effets de ces drogues en fait. Le mystère est complètement quels sont les effets de ces drogues sur la conscience, parce que tout ça se situe dans une recherche qui est qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce qu'une expansion de la conscience. Et c'est ça qui fascine aussi Michaud. Qu'est-ce que le moi, qu'est-ce que la personnalité, qu'est-ce que l'espace du dedans, en fait. C'est quelqu'un qui est dans une exploration de l'intériorité. Et cette notion de synesthésie, en fait, elle apparaît, donc, que tu citais, qu'il faut pas, que tu mentionnais, qu'il ne faut pas confondre avec la synesthésie, hein, parce que la synesthésie, c'est les sensations, l'esthésie, c'est la sensation, et le syn, c'est ensemble, c'est l'audition colorée. La synesthésie, là, c'est ce qu'on appelle le sens commun, et qui est en fait amené par Théodule Ribaud, un psychiatre du milieu du 19e siècle, et en fait, ce serait un sens, le sens interne, qui aurait la capacité de réunir à la fois les perceptions extérieures, hein, donc tout ce qu'on perçoit par l'ouïe, le goût, le toucher, etc., et tout le vécu organique du corps, et de les combiner pour produire chez l'individu le sentiment fondamental de l'existence de soi. En fait, c'est ça la synesthésie, qui se réveille quand on est en état de trouble. Pour faire plus simple, si vous êtes malade, en fait, votre sens synesthésique se réveille parce que vous rappelez que vous avez un bras et là, vous commencez à écouter votre bras. Donc, Michaud, en fait, il se met à l'écoute de son bras, à l'écoute de son bras qui, dans une hallucination, va partir très loin, très loin, très loin. Le bras va s'allonger. Donc, il a une hallucination synesthésique, hein. Les déficiences synesthésiques, ça va être aussi les membres fantômes, hein, donc, et qui peuvent arriver aussi, pas seulement aux amputés, aussi aux psychotiques, hein, aux schizophrènes. Et voilà. Et c'est aussi la multiplication de corps autres que le mien. Donc c'est toutes les hallucinations de fantômes, et c'est là qu'on s'approche de la zone spirit, mais Michaud ne fait pas partie non plus de la littérature spirit. Hein. Donc ce que cherche Michaud, c'est vraiment l'exploration de l'intériorité.
Alors, ce qui est particulier, c'est pour ça que ça m'a intéressé pour cette émission et pour ces questions autour du hors-livre, du texte et de la performance, etc., c'est qu'il ne fait pas que s'y intéresser, il se livre à une expérience d'écriture à partir de là. Et donc, là, ce que tu montres assez bien, c'est qu'il ne se situe pas vraiment dans la tradition de cet imaginaire littéraire des drogues qu'on connaît depuis le 19e siècle, mais il cherche quelque chose d'autre, et notamment par la notation et l'auto-observation, mais au fond... Puisqu'il y a ce hors de l'expérience indéfinissable, indicible, qu'est-ce qu'il arrive à noter et qu'est-ce qu'il cherche à faire dans son projet littéraire avec ça ?
Alors en fait, il met en place ce qu'il appelle, ce que les médecins, ils récupèrent une écriture scientifique et documentaire qui s'appelle l'écriture d'auto-observation médicale. Et en fait, tous les livres que je vous ai cités avant sont... pour les médecins, non pas des œuvres littéraires, mais des documents scientifiques qui sont cités dans des thèses de médecine, où Michaud est donné comme cas anonyme. Hein, souvent, ils sont anonymisés. Et ce qu'il arrive à saisir, en fait, c'est vraiment des... En fait, les livres de la drogue, c'est vraiment une... C'est d'abord une première performance dans le moment où il prend les drogues, hein, chez lui. Il fait une seule expérimentation. En fait, il y a trois institutions qui sont importantes. Il y a l'hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris. C'est là où ils font toutes les expérimentations. C'est vraiment eux qui dirigent les choses. Les laboratoires pharmaceutiques Sandoz, qui sont maintenant le groupe Novartis à Bâle. Et il va y avoir aussi le musée d'histoire naturelle de Paris pour la psilocybine en particulier. Donc il faut bien avoir cette géographie en tête. Et donc il récupère cette écriture scientifique de l'auto-observation pour performer dans le texte son usage, enfin ses hallucinations. C'est-à-dire que l'expérience, il arrive à la déplacer dans le texte, dans le sens où ce qui va produire l'événement d'écriture, l'événement de poétique, ça va être d'écrire le mot et la métamorphose du mot. C'est-à-dire, ça va être de voir les jambages d'un M, ça va être de saisir comment ce mot, si je dis hallucination, l'hallucination se produit tout de suite. Donc il va travailler constamment avec les lignes et avec l'implication physique dans l'écriture et réciproquement. Voilà. Donc, en fait, ils sont uniques, mais ils sont assez durs à lire, finalement. Ils sont très peu lus. Il n'y a eu aucune étude littéraire, en fait, pour l'instant, sur les ouvrages de la drogue. Seulement des études faites par des médecins, en utilisant les ouvrages comme plutôt comme des documents scientifiques.
Et quand on essaie de faire le lien avec notre situation contemporaine, on a beaucoup parlé ces dernières années de la littérature comme mode de réparation, comme mode presque curatif, des éléments autour du care, évidemment, du soin qu'on met là-dedans. Et je m'aperçois en te lisant que, par exemple, Michaud disait « le poète est un grand médecin ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Est-ce que c'est dans ce sens-là ou j'imagine que non ?
Michaud, il travaille, enfin, il a cette affirmation qui vient de chez...
Sachant qu'il n'est pas médecin.
Non, il a commencé des études de médecine et puis il a laissé de côté. En fait, pour Michaud, l'antidote numéro un, notamment sous drogue, hein, puisque sous drogue, à un moment donné, il faut aussi être capable pour écrire de maîtriser l'état de trouble, hein, c'est le rythme. Donc, il renoue par le rythme. Hein. À un moment donné, il est sous drogue, il perd pied. Et il raconte comment il se met à taper pour avoir un rythme, pour trouver un rythme qui va lui donner comme ça une sorte de à la fois d'état de transe et de rééquilibre à l'intérieur de lui-même. Donc c'est vraiment le rythme. Et à ce titre, en fait, il renoue avec une très ancienne fonction de la littérature qui est celle du charme, hein, ce qu'on appelait à l'ancien sens du mot charme, c'est-à-dire tous les dispositifs rituels qui accompagnaient les soins, la médecine antique. Il y avait toujours des formules magiques, toujours des mises en rythme et des mises en transe, en fait, pour produire un effet de guérison. Voilà. Donc c'est à ce titre d'abord que le poète est un grand médecin.
Il y a comme une volonté aussi de se débarrasser un peu, d'exorciser la pensée, de faire de pratiquer une écriture qui soit délestée du poids de la pensée.
Alors, du poids de la pensée, tu veux dire...
Du poids de l'intellection, des phénomènes.
Oui. Alors, disons que la notion d'exorcisme, elle est fondamentale chez Michaud, bien sûr. Mais il faut trouver des formules pour faire sortir ce qui nous aliène, ce qui est aliénant à l'intérieur. En fait, c'est ça le... Et la sortie des doubles, c'est aussi ce qui fait écriture. Voilà, c'est comment j'entre en combat avec d'autres qui viennent prendre la place dans l'espace de la page. Et il y a toujours une tension chez lui entre ce qui est effectivement de l'ordre de l'intellectuel et de l'ordre de l'émotion ou du sentiment. Donc les livres de la drogue, c'est vraiment à la fois des documents, à la fois des poèmes, à la fois des essais. Ils sont vraiment pris dans cette tension quasi physique entre ce qui est de l'ordre du savant, de l'érudition et de la synesthésie pure, c'est-à-dire le réussir à jeter sur le papier une perception. Mais il faut quand même bien voir qu'en 1945, Merleau-Ponty a publié La phénoménologie de la perception. Donc on est dans une période aussi, une sorte de période qui va être très courte, de riposte subjective, j'ai envie de dire, par rapport à un positivisme dominant. Et donc là, les psychiatres en appellent, c'est pour ça aussi que les artistes et les écrivains ont un rôle à jouer dans cette révolution, parce qu'ils peuvent traduire les effets des drogues, et puis parce que c'est la perception qui est l'objet de recherche, en fait. Et après, ça s'est complètement... d'effet de nouveau, on est retombé dans la division qui, à mon sens, est vraiment catastrophique entre ce qu'on dit scientifique et ce qu'on dit littéraire. Et toutes les expérimentations sous drogue, elles ont été faites non plus avec des récits d'auto-observation, donc qui sont des récits délirants. Hein, je veux dire, les médecins, ils voient des choses absolument... Il y a un imaginaire...
Tu travailles aussi sur une archive de médecins qui travaillent de la même manière que Michaud.
Oui. Bah, en fait, j'ai lu toute sa bibliographie. Donc j'ai lu tout, parce qu'il y a tout un, il y a des effets d'intertextualité, ils s'influencent, etc. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Non, c'est pas grave. Ouais.
Non, ce moment qui était un moment de liaison. Entre...
Oui, voilà. Et après, en fait, toutes ces expérimentations, elles sont faites avec ce qu'on appelle la psychométrie. Donc, c'est des batteries de tests psychologiques qui rationalisent complètement les effets. On les met en tableau, on fait des schémas. Et donc, on a sorti de nouveau. L'écriture est re-rentrée dans l'espace des médecins, dans l'espace médical, dans l'espace du savoir scientifique. Et il en a été vraiment éjecté de nouveau à partir des années 70.
Il faudrait que vous collaboriez avec des laboratoires à nouveau pour ce type de choses-là. Notamment, je pense aussi à quelque chose qui est très intéressant sur le site Ubu Web. On trouve le film que Éric Duvivier a fait avec Henri Michaud et qui a été commandé par les laboratoires Sandoz. C'est un film complètement expérimental qui retrace aussi un peu cette période où des laboratoires commandaient des films expérimentaux. Et le début du film, ça m'a beaucoup étonné et j'aimerais t'entendre là-dessus. Michaud est extrêmement sévère sur la possibilité que le cinéma puisse se rendre compte de ces perceptions-là, alors qu'à côté, lui le fait avec l'écriture. Alors qu'est-ce qui se joue là entre cinéma, ces images qui sont incapables de rendre compte des images intérieures et l'écriture qui le pourrait ?
Alors ça c'est une grande question qui obsède aussi les médecins, c'est est-ce qu'on peut, dans un traité d'hallucination, mettre des illustrations ? En fait, ça a été... Il n'y a pas vraiment de réponse. Hein. Comment l'hallucination, c'est ce qu'on appelle une perception sans objet. Donc, la représenter par un dessin ou par une image, c'est quelque part la trahir. Hein. Henri Hay, dans son traité des hallucinations de 1973, pense que c'est un scandale, en fait, de vouloir mettre une procédure mimétique de représentation sur l'hallucination. Lui, il est tout à fait contre. Donc, mais ça a été et ça s'est traduit. Au début, les médecins voulaient absolument, ils faisaient dessiner les aliénés qui prenaient du LSD, et après ils reproduisaient. Il y avait aussi toute la vogue de l'art psychopathologique, hein, c'est-à-dire les dessins qui étaient des documents de l'expression. L'idée qu'on peut projeter par un dessin plus que par l'écriture de manière immédiate ce qui se produit à l'intérieur de soi et d'une certaine manière traduire la voix de la maladie pour mieux en comprendre les symptômes. Voilà. Et donc les revues médicales ont été dans les années 50 surtout soumises à rude épreuve parce que d'un seul coup il fallait qu'elles fassent des tirages en couleur par exemple pour pouvoir restituer les dessins. Alors il y en a un par exemple que j'aime beaucoup, de dessin d'un aliéné qui est d'un psychotique ou d'un schizophrène, et il dessine en fait les chaussettes de l'expérimentateur, donc du médecin, qui sont des chaussettes à rayures, et donc il y a comme ça les rayures rouges qui s'amplifient dans la peinture. Donc ça fonctionne quand même aussi, l'image, hein. Mais Michaud fait partie, disons, des sceptiques de cette approche mimétique, on va dire. Disons que le poème, parce que le poème n'est pas mimétique, enfin le sien, il est le seul à faire ça. Ils sont uniques, les livres de la drogue. Parce qu'en fait, il n'est pas mimétique, c'est ce que j'essayais d'expliquer avant, il est performatif. C'est-à-dire que c'est de la performance pure. C'est-à-dire qu'on lit et on tombe dans un mot. L'événement hallucinatoire se produit dans le mot ou dans l'image du mot.
Peut-être que voilà. Tu peux nous en faire entendre de ces mots-là. Tu en as quelques-uns sous les yeux.
Oui, alors ce que je vais vous lire, là je ne l'ai jamais lu, c'est Les inédits de la drogue. Il y a 250 feuillets qui sont disponibles aux archives Michaud sur lesquels j'ai pu travailler. Donc ça, c'est vraiment à l'état brut, c'est-à-dire que là on est avec Michaud. Là j'ai pris la séance du 11 mars 1966. On est avec lui, il est sous hashish, mais alors ce n'est pas le hashish qu'on connaît actuellement, parce que c'est vraiment, il l'ingère déjà, donc par ingestion, c'est beaucoup plus fort que si vous fumez un joint. Et donc là c'est vraiment à l'état brut et ça permet après de voir comment il réécrit, comment il retravaille. Donc là c'est vraiment les notes prises sous drogue, hein. Donc en général il est couché dans son lit, il utilise des revues, il regarde des magazines, il écoute de la musique comme ce qu'on a écouté tout à l'heure. Donc il y a pas mal d'illisibles. Le premier mot de ce feuillet là c'est un illisible, ça commence mal. Et après, donc c'est la première fois que je les lis, hein. Ils n'ont jamais été lus par personne. Savourons le moment, et je vous prie de m'excuser si j'écorche un peu, mais comme c'est complètement éclaté sur la page, la lecture que je vais faire, je pense que si je la refais demain, je ne vais pas faire la même. C'est un peu comme le coup de dé de Mallarmé, vous voyez. C'est sur des doubles pages. Voilà. Donc 2h30, 1h30 et 30 minutes, et 1 heure après 2 cuillères. C'est maintenant à elle, et on doit changer de certitude, ou perdre moins la tête. Donc là, il faut que j'ouvre une parenthèse. Michaud lui-même n'arrive pas à se relire sous drogue. Donc en fait, il corrige le mot. Donc par exemple, le mot certitude, dessous, il met attitude ou aptitude. C'est-à-dire qu'il produit ce qu'on appelle en littérature des paronomases. Et après, il les récupère dans son texte. Donc il utilise le déchiffrement. Voilà. Donc c'est maintenant à elle, et on doit changer de certitude ou perdre moins la tête. Attitude. Changer de certitude, point d'interrogation, attitude ou aptitude. Même cette deuxième forme, je la regarde plus comme en rêve que je ne regarde la première, ou lequel je peux seulement. Ah, M, j'entends la voix de Micheline, son rire, que je vois, qui est préparé, que je ne peux penser inutiliser. Et dans cet escalier que je gravis, qui est comme s'il m'était proposé un escalier, l'escalier, je me jette dans l'image que me propose l'escalier, l'escalier que je descends, qui me hait, qui me questionne, qui en quantité de dégringolade me hait. Il est fait de sensations non visuelles. Et au sol, bleu gris, mur gris, gris foncé, gris, non monocolore, bol ou sol, en grimpade, sensation de boule. Je tiens le bol, agréable sensation, environnement, moi, lui, agréable sensation de la main. Je l'environne, il m'environne, environnement circulaire, support, envie de toucher. Il me vient des envies de toucher, un rire du tactile et la prise manuelle qui suscite les images ou en tout cas les accompagne. Une vie agitée du tactile, un rire du tactile, une vie d'un homme seulement tactile.
Merci. Je voudrais quand même pas finir cet entretien sans évoquer ce livre, L'argument du rêve, qui a paru l'année dernière, je crois, ou cette année même, et qui est un livre qu'on qualifie de poésie documentaire. Je voudrais pas le passer sous silence parce qu'on retrouve, alors bien sûr sans faire des parallèles qui n'ont pas lieu d'être, des éléments qu'on a évoqués déjà, notamment la question de l'hallucination, la question du fantôme et la question du rapport aux documents sur lequel j'aimerais t'interroger pour lier avec des perspectives un petit peu contemporaines. Il y a beaucoup d'écritures documentaires ici aujourd'hui qui tentent de restituer le document parfois dans son intégrité. Il me semble que dans ce texte, tu fais autre chose, que tu rêves le document, que tu hallucines le document, et j'aimerais un peu te parler de ce rapport au document qui fait partie vraiment des enjeux à la fois littéraires et théoriques dans ton travail.
Bonjour. Donc tu disais au début la vérité est entre.
Oui, la vérité. Entre, oui.
Ça, je trouve ça très beau de dire ça. Je pense que la vérité, elle est entre nous, d'une certaine manière, déjà. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas la vérité de lieu fixe, hein, c'est entre nous. Et c'est vrai que la communauté des morts est aussi une communauté avec laquelle il faut dialoguer. Alors, on le fait depuis longtemps, puisqu'il y a la tradition du dialogue des morts, qui commence avec, en moins 386, avec Lucien de Samoastre, qui est un genre éminemment politique. Hein. On ne fait parler les morts que pour parler des problèmes contemporains, en fait, hein, puisque c'est eux qui ont le point de vue le plus sage, évidemment. Et donc, ce livre se situe dans cette tradition du dialogue des morts, et donc c'est un livre assez poétique, mais politique, mais qui utilise le poétique, qui travaille effectivement en rêvant les documents, mais en les rêvant à partir de voix plus anciennes.
Donc, les documents, voilà. En l'occurrence, c'est... des documents sur la bataille d'Okinawa.
Alors, c'est des documents que j'ai... C'est tous des documents inédits. Le premier volet, c'est des documents de l'armée américaine. J'ai récupéré tout ce qu'ils avaient laissé, tout ce qui n'avait pas été mis à Washington. C'est-à-dire vraiment les rebuts de ce qu'ils ont... Parce que l'armée américaine a fait quand ils ont débarqué au Japon, sur l'île d'Okinawa, qui est une des îles... On le sait, on connaît très peu cet épisode de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Qui est la guerre vraiment du Pacifique, où on a 250 000 morts en quelques mois, puisque entre l'arrivée de l'armée américaine et le fait que les militaires japonais ordonnent à toute personne de plus de 14 ans de se suicider, hein, donc d'avoir un geste kamikaze, voilà, on a une sorte de deal fantôme. C'est assez impressionnant d'aller là-bas, qui est restée une zone voilà, géographique. Donc ça a donné voix à ces morts-là que j'ai essayé de travailler à partir de ces archives. Je ne pouvais pas travailler sur des archives japonaises.
Et ces morts qui sont passés sous silence. Donc ici, ces fantômes, ce dialogue des morts, c'est aussi pour, voilà. Non pas rétablir une vérité historique, mais pour faire réémerger, c'est ce dialogue des morts politiques dont voilà. Tu parlais tout à l'heure.
Parce qu'en fait, là, il y a toujours des colonies militaires. C'est toujours l'île que garde le gouvernement américain. C'est une zone stratégique, en fait. Voilà. Et le deuxième, et après le dernier, on n'en parlera pas, parce que je crois que le temps passe. J'ai travaillé sur des archives naturistes, hein, ce qu'on appelle le FKK, le Freikörperkultur, la culture libre du corps. C'est-à-dire se mettre tout nu, c'est vivre nu et être libre. Et donc ça, c'était l'idée des anarchistes. Et puis après, ça a été récupéré par différentes idéologies, dont le fascisme, hein, aussi, dans une esthétique du corps beau, du corps sportif. Donc c'est vraiment, c'est une utopie, donc un rêve. C'est-à-dire un argument par le rêve qui est complètement manipulé au fil de l'histoire et qui touche au plus intime de nous-mêmes, c'est-à-dire à notre nudité, à nos émotions. Et moi, j'essaye avec ce livre de voir comment on est agi, en fait, comment le politique nous travaille.
Voilà. Il nous travaille avec les morts, c'est aussi ce qu'on va voir avec Marc et Mélodie.
Murs sacrés des salons.
Murs sacrés des salons.
Murs sacrés des salons.
Placard. Visage noir.
Noir. Visage. Placard.
Placard. Laisse ton cœur au son. Laisse
ton cœur
au son.
Alors, ce son qu'on entend, Marc et Mélodie, s'appelle hypnographie, voix imaginale, ASMR. Qu'est-ce qu'on entend, du coup, là?
Qu'est-ce qu'on entend? On essaie de le savoir encore.
Hein. On entend des voix,
On déjà. Entend des voix, on entend nos deux voix, qui utilisent... Enfin, on recourt à un dispositif qui s'appelle aujourd'hui l'ASMR, hein, qui est un dispositif populaire, trivial... Et on se les réappropriait pour faire entendre l'infraordinaire peut-être ou l'infini tésimal en le chuchotant pour amener peut-être les gens à prêter l'oreille et à entendre ces voix alors qu'on entend sous différentes formes, hein, sous hypnose, méditation, dans des situations tragiques, dans des, comme tu le disais Muriel, hein, dans des états intermédiaires entre la veille et le sommeil, des états qui ont été identifiés, qu'on parle d'endophasie, d'hypnagogie ou d'autres choses. Nous, on parle plutôt d'autres choses. Et on a bien l'idée de ne pas réduire, quand je dis on, c'est Mélodie et moi, hein, de ne pas réduire précisément ces voix à ce que le discours aujourd'hui, alors scientifique est parfaitement, qu'on doit pouvoir bien évidemment intégrer, hein, ce sont deux scientifiques qui parlent, hein, deux chercheuses, mais on aime également pouvoir s'offrir la possibilité de s'ouvrir à autre chose, en interrogeant ces voix, à ce qu'elles nous font, à la manière dont elles nous traversent, dont elles nous parlent, dont elles nous orientent, et à la manière dont on peut leur faire place. Comment tu vois ça, toi, Mélodie ?
Ben, tu as dit beaucoup de choses, mais en fait l'idée c'est de chercher une forme qui rende lisible sous différents, dans différentes atmosphères et différents langages la puissance que ces voix nous donnent pour se repeupler. C'est-à-dire que ce qu'on expérimente en portant notre attention dans nos dialogues intérieurs, c'est la possibilité, par exemple, de faire de la place à nos voix minoritaires, de faire taire l'œil. Moi, j'entendais dans ce que tu disais, Muriel, cet œil que Michaud peut-être fuyait, c'est dans d'autres termes, mais ce qui peut-être nous empêche d'entendre pour nous-mêmes ce par quoi nous sommes composés, nos lignes, nos récits, nos histoires familiales, notre histoire du corps, et la danse dans laquelle je suis entrée, parce que Marc ouvre beaucoup de seuils et que c'est très généreux et on peut commencer à converser, c'est celle d'essayer de réagencer les façons de faire langage dans le monde et de faire territoire avec des voix minoritaires.
Donc peut-être j'aimerais bien, Marc, que tu reviennes un peu sur ce parcours et puis qu'on reprenne vos travaux collaboratifs sur ce « j'entends des voix » qui commence par de l'auto-hypnose et qui finit par aller vers ce monde imaginal et cette conversation écologique. Alors peut-être tu peux nous refaire un peu ce parcours qui t'a mené là.
Bon, déjà, alors c'est assez banal, mais on entend tous des voix.
Hein. c'est aussi la synesthésie, d'une certaine manière.
C'est ce moment où... Tout à fait, c'est la synesthésie, ou chez les mystiques, ou chez Henri Corbin, par exemple, qui a retravaillé des mystiques et des textes mystiques, comme ceux de Mola Sadra, comme ceux de Shoravardi, etc., qui va plutôt parler du corps spirituel, qui va accéder à cet état intermédiaire, qui va leur permettre d'activer de nouveaux possibles. Alors, en fait, tout a commencé justement par ces voix-là auxquelles j'ai fait de la place. J'entends des voix depuis que je suis petit, je pensais que c'était banal, ordinaire, je ne me posais même pas la question. Puis quand j'interrogeais des gens, je me rendais compte que c'était le cas, mais dans d'autres états ou dans un rêve, etc. Donc j'ai commencé à les noter, à les intégrer. Ces voix ont commencé à se manifester sous la forme de maximes, de formes gnomiques. Hein, c'était souvent des phrases au présent de vérité générale. Que feras-tu de l'énigme de la vérité, par exemple, ou laisse ton cœur au sang. Enfin, des tas de formules comme ça qui sont assez banales dans l'histoire de la littérature, qui sont des maximes, etc. Mais j'ai vu progressivement apparaître également ce qu'on appelle des déictiques en linguistique, c'est-à-dire des informations spatio-temporelles. J'avais des ici, des maintenant, j'avais des questions de type que fais-tu sur cette île. On peut entendre différentes homophonies, hein, mais. Et donc il y avait une place très forte de ces repères spatio-temporels. Et donc je me suis demandé en effet si dans la littérature existante, notamment mystique, il y avait des chercheurs qui avaient travaillé sur ces questions. Et au miracle, depuis que je suis petit, je suis biberonné à la, à la mamelle, j'allais dire, d'Henri Corbin, parce que mon père a tous ces volumes. Hein. Henri Corbin qui a beaucoup travaillé sur la mystique iranienne musulmane et qui a identifié dans sa lecture de ces textes du 12e, 13e, 17e siècle et dans leur rapport avec la théologie mystique et chrétienne, hein, celle de Maître Eckhart, celle du pseudo-Denis, celle de Jacob Bohme, de Swedenborg, etc., qui a identifié un monde intermédiaire qui est situé entre le monde empirique, celui des sens, le monde intellectuel, celui de l'esprit. Henri Corbin parle du monde imaginal. Alors, le monde imaginal, c'est celui de l'âme, à laquelle on accède, Henri Corbin nous le dit, c'est un lieu qui est insitué, mais qui se situe. C'est un lieu sans coordonnées auquel on ne peut pas accéder avec un système de coordonnées classique, un GPS ou que sais-je, mais qui se présente de manière capricieuse, de manière fractale. Et il me semble qu'en effet, j'ai eu accès, comme d'autres en fait, à ce monde-là, qui est, pour le dire autrement, le monde de l'imagination active, le monde de l'imagination agente. C'est une imagination qui nous possède, dont on constate les effets, qui nous traverse et qui est peuplée de tas de mondes, de tas de formes. Henri Corbin nous dit que ce lieu, c'est le lieu où a eu lieu tous nos gestes, toutes nos pensées, tout ce que nous nous disons et dans lequel nous pouvons puiser pour le réactiver dans notre propre monde empirique et intellectuel, pour reconfigurer, comme le disait Mélodie, les trames dans lesquelles nous sommes pris et prises.
Ça rejoint tout à l'heure ce que tu disais encore. Je trouve qu'il y a beaucoup de fils là qui se tissent sur ce qui nous agit et comment justement on part à la récolte des signes qui peuvent prendre la forme d'énigmes. Hein, c'est ce que tu disais aussi, comme des petites phrases qui tournent dans notre tête et dont on ne sait pas encore trop quoi faire, mais dont on sent qu'elles essayent de nous dire quelque chose. Et on essaye de les tracer, de les poser, de les partager. Et le geste de Marc au départ, et qu'on a été plusieurs à mettre en circulation, c'était effectivement de comment ces énigmes peuvent avoir un effet à travers nous, c'est-à-dire qu'on les voit de travers, de quelque chose qui est plus grand que nous, qui est passé peut-être par d'autres textes, d'autres conversations, et qui va prendre forme par notre corps, par notre vécu, sous une phrase, sous une vision, sous ça peut être plein d'autres choses. Tu parlais de goût, moi j'ai pas encore vécu les goûts, mais en tout cas sous différentes formes et auxquelles on va donner de la place pour réagencer d'autres, encore une fois je reviens, mais recomposer d'autres récits. On pourrait penser beaucoup à ce que dit Deleuze à ce sujet, mais c'est comment avec ce réagencement on ouvre de nouveaux mondes possibles et d'autres manières d'être possibles que l'on porte déjà en nous sans le savoir si on n'écoute pas attentivement.
Et du coup tout le monde entend des voix, on est d'accord là-dessus, mais tout le monde ne se livre pas à un processus artistique ou d'écriture, alors que vous êtes lancé avec beaucoup de moyens différents dans une forme d'hypnographie d'écriture de ces états-là. Et j'aimerais bien que vous parliez l'un et l'autre de la manière dont vous le faites, en utilisant beaucoup d'ailleurs les réseaux, c'est-à-dire des situations d'édition industrielle pour capter quelque chose qui, au fond, leur échappe, quoi. Alors peut-être toi, Mélodie, oui. sur je crois sur Instagram plutôt.
Alors effectivement, sur Instagram, on s'est retrouvés à deux et dans à la fois des danses communes et parfois plus qui se séparent et qui se rejoignent. C'est assez intéressant de voir la dynamique et qui sont de plus en plus. On sent qu'elles sont écoutées et on sent que des personnes s'y joignent à simplement publier les phrases que l'on entendait avec toute la facilité que permettent les outils qu'on a aujourd'hui que d'être en train de marcher, d'entendre, d'avoir une idée qui passe. On pourrait dire presque, mais ça peut être aussi simple que ça, et de la noter et de la partager immédiatement. Et j'insiste aussi là-dessus, c'est comment donner de la place, encore une fois, dans ce geste-là. Et puis, petit à petit, on a commencé à chercher d'autres formes, donc par exemple la broderie, donc prendre le temps de rester longtemps avec l'une de ces phrases qui à un moment donné du coup va se déployer et va pouvoir aussi matériellement être mise dans les mains d'autres personnes. Donc c'est ce qu'on a fait à Bordeaux sur l'invitation de Cécile Canu, où nous avons fait une performance hypnographique et où les participantes et participants dépliaient des phrases que nous avions brodées pour les prononcer et ensuite donner des phrases qui leur faisaient écho au moment où ils les prononçaient. Donc on a construit comme ça de plus en plus de phrases dans l'atmosphère. On a aussi pratiqué la linogravure, la broderie, je l'ai déjà dit, les cyanotypes, peut-être tu peux parler, parce que ça rejoint la question des fantômes.
Oui, alors dans cette démarche, si on parle de cyanotype ou de présence, il y a la question en effet du fantôme, et je crois qu'on se fait fantôme dans ces cas-là, on hante d'une certaine manière les réseaux. Dans Zias, il y a une esthétique de l'interruption aussi. Tu parlais d'industrialisation, en effet, il y a de fortes logiques de standardisation des formes. C'est une manière, non pas de contester ces formes, mais comme l'ASMR, de rentrer dans le courant, pour pousser les coudes et hanter par notre présence. Alors modestement, évidemment, on ne va pas révolutionner ce qui se passe sur Instagram, TikTok, Twitter et j'en passe. Mais c'est une manière de pouvoir dire, à travers nos voix, nous trouvons l'espace dans lequel nous sommes. Vous devrez faire avec nous, avec notre subalternité, hein, dans certains cas. Vous devrez faire avec nos affiliations impropres, avec nos coprésences spectrales, et avec tout ce que nous convoquons dans ces espaces-là pour les reconfigurer, pour en interrompre l'esthétique et pour en trouer, encore une fois, la trame. Alors ça peut aller en effet du cyanotype qu'on va transformer de manière multimédiatique.
Qu'est-ce que c'est exactement ?
Cyanotype, c'est une technique en fait, d'impression avec le soleil. On va mettre une couche de produit sur une feuille, hein, sur du papier. On va ensuite imprimer une feuille ou une plante ou une photographie pour, grâce au soleil, la voir se manifester. Donc je les reprends généralement, j'ajoute une couche de gif ou une couche de glitch, et ce qui permet de faire exister mes propres morts, hein, ma grand-mère qui est morte l'année dernière et qui demande manifestement des comptes puisqu'elle revient régulièrement aujourd'hui dans mes séances de méditation ou d'hypnose et demande des comptes à la famille. Sur sa propre mort. Donc vous voyez que les morts ne nous quittant pas, demandant des comptes, nous enjoignent également à trouver des formes pour les faire exister et pour toucher ceux qui sont sur les réseaux, c'est-à-dire ma propre famille. Alors, juste un point là-dessus, moi je ne recommanderais pas aux gens de se lancer dans cette aventure. Vous disiez qu'on entend en effet tous des voix, ça ne veut pas dire qu'il faut leur ouvrir la porte. Il y a une initiation qui est importante et le risque dans la prise de LSD ou de tas de substances, c'est de rater l'initiation. Ça peut être extrêmement dommageable. Les pères du désert, depuis le 4e siècle, nous avertissent, hein, sur ces questions. Et le passage risqué de la métanoïa à la paranoïa, c'est-à-dire d'être à côté de son intelligence, de glisser dans une matrice de sens pour laquelle on n'a plus d'outils anthropologiques et qui progressivement nous font glisser dans une hors zone. Une amie sur WhatsApp hier me disait qu'elle commençait, du fait de nos discussions, c'est contaminant, hein, à faire de la place à des choses qui passaient dans les états intermédiaires et qu'elle ne savait pas comment gérer ce qui se présentait à elle. Donc, fermez la porte.
Il s'agit vraiment de cohabiter avec toutes sortes d'êtres, en fait. Et c'est vrai que ce soit des êtres imaginaux qui, donc, viennent nous rendre visite, en quelque sorte. Hein. On peut penser à la brodeuse de dents, dont on pourra reparler éventuellement. Ou alors, effectivement, des fantômes, des êtres qui, comme tu disais, demandent à être entendus, nous réclament, hein, des êtres qui nous réclament. Et pour ça, on ne peut pas, effectivement, y aller seul. Et c'est ça aussi l'intérêt de le faire dans la conversation, c'est qu'on se donne aussi des moyens de revenir à nous-mêmes par rapport à ce qui peut s'apparenter à être agi ou être, on pourrait dire, possédé au sens d'inviter des êtres à parler avec nous, à parler à travers nous ou à parler avec nous. Et le cas de la brodeuse de dents, il est intéressant parce qu'on, justement, avec Marc, on échangeait un petit peu à la fois les phrases et les images qui passent. Et tu me disais que tu avais une conversation au téléphone avec une amie et que tu avais vu une brodeuse de dents. Me disant ça, je me suis mise à dessiner la brodeuse de dents et ensuite j'ai invité la brodeuse de dents à un moment où j'écrivais, c'est-à-dire écrire avec elle. En fait, qu'est-ce qu'elle avait à me dire et à écrire à travers moi ? Je peux éventuellement vous lire un petit.
Bah oui, on peut le faire maintenant si tu veux.
Donc on va invoquer la brodeuse de dents. Éloigne les possessions de ma chair. Ici, donne forme à l'âme-corps, peau tendue de désir, tant déchirée, déployée, déformée, dans la rétine des enfants qui rêvent leur vie d'hier avec la joie du lendemain vibrant. Dans un repli de tissu, troué, retramé, cousu sur ma bouche qui chante avec toi, mon geste attend sa place, se déploie comme on crie, une lancée subite, interrompue par les mouettes qui rient trop fort, cherchant une mère absente. Brode nos rêves, nos oublis, les mêlés à la salive de nos chants, talisman de nos récits distendus, qui creusent tout au fond de la tombe, humus de nos gencives démembrées. La brodeuse s'affaire, regarde peu dans les rétines, caresse la bouche décelée, lui confie ses fils, guette ses murmures, les effiloche en bobine, les enroule d'argent, fait sa toile, trame-joie, dedans, dehors, de nos mondes. Voilà, je fais un petit extrait.
Et non, tu voulais... Non, d'accord. Ce qui m'a frappé aussi en lisant aussi les textes théoriques plutôt de Marx, c'est que vous retrouviez aussi des problématiques de recherche très contemporaines aujourd'hui, comme par exemple les Queer Death Studies, où cette assemblée avec les morts est aussi une manière de faire résister les fantômes, comme tu le dirais aussi, Muriel, à certains endroits, pour que ces fantômes viennent s'opposer aux nécropolitiques actuelles. Alors peut-être on pourrait... Tu pourrais parler un petit peu de ça et de ce...
Avec plaisir. Ouais, les Queer Death Studies, en fait, c'est une perspective queer sur la mort. C'est un mouvement qui a été lancé dans les pays scandinaves en 2016 par trois chercheuses. J'ai oublié le nom, mais j'ai fait un podcast dessus, donc n'hésitez pas à aller l'écouter pour les retrouver. C'est Marietta Radomska, et alors, j'ai un trou, je suis désolé. Et donc, c'est un mouvement qui est né en 2016 pour intégrer les morts dans les assemblées délibératives et dans la manière de comprendre les raisons pour lesquelles un certain type de corps, ceux des subalternes, ceux des migrants, ceux des migrants, ceux des subalternes, ceux des vieux, ceux des des noirs, des arabes, etc. Rentrent plus facilement dans la mort que d'autres corps. Et donc les Queer Death Studies, en s'appuyant sur les travaux d'Achinambé et la notion de nécropolitique, vont essayer d'identifier ces causes-là, ces raisons-là, en identifiant des tas d'infrastructures à la fois discursives, matérielles, qui vont permettre, dans des usines par exemple, à un certain nombre de corps de rentrer dans la mort. Et face à cette mort, face à ces morts, face à ces injustices, les Queer Death Studies nous enjoignent à les intégrer et à les faire parler pour demander des comptes sur leur propre mort, ce qui va amener par exemple des chercheuses à écrire des lettres à leur mort, des chercheuses autochtones par exemple, qui vont construire un dialogue, une conversation dans leurs articles scientifiques avec leur propre mort, ce qui donne des assemblages assez inédits dans la recherche universitaire, mais c'est une sorte de voix qui se ferait un chemin dans des espaces où ces voix-là sont généralement silencieuses. C'est une manière pour les Queer Death Studies, en fait, de trouver des affiliations impropres, de développer des coprésences spectrales pour reconfigurer encore une fois la trame dans laquelle nous sommes empêtrés et qui silencie un certain nombre de morts. Et ce qui va les amener également à travailler la mort moins comme un événement, et donc non plus à le vivre comme un deuil extrêmement douloureux, mais comme un processus continu avec lequel nous pouvons interagir. Alors, je ne vous dis pas que demain, si vous perdez quelqu'un, évidemment que vous allez ressentir une forte peine, mais il faut pouvoir s'ouvrir à la possibilité, quand ce sera le temps pour vous, quand ce sera le bon moment pour vous, quelques années plus tard, de s'ouvrir à cette possibilité-là, de s'offrir une conversation. En utilisant d'autres outils, la méditation, que sais-je, le poème, la méditation, la conversation écologique. Il y a des tas de moyens, finalement, de faire exister ces morts-là dans nos propres assemblées pour en reconfigurer les récits politiques.
Pour moi, c'est une manière de passer de la possession individuelle et collective à la relation, en fait. C'est-à-dire d'identifier qui est là, dans les prises de parole, dans nos gestes, pour pouvoir dialoguer avec et créer de nouveaux gestes co-construits. Et par exemple, ce qu'on a mis en place lors de notre performance hypnographique, c'était précisément ça. C'était de créer une forme à la fois physique et orale pour parler avec ta grand-mère, pour parler avec mon arrière-grand-mère, et créer des gestes qui permettent aux voix du groupe, d'un collectif qui se forme pour répondre aux présences invoquées, pour répondre par le geste et par la matérialité aussi, par l'objet. Ça rejoint peut-être, moi, ce que je trouve, ce que j'identifie dans toute la post-mémoire, le mouvement autour de la post-mémoire des traumas collectifs, par exemple, et que l'on voit beaucoup chez les artistes, justement, qui vont invoquer à la fois les vivants et les morts pour créer un monde désirable.
Et j'aurais une petite question, parce que ça, c'est des choses que j'ignore complètement. Vous utilisez beaucoup l'un et l'autre des techniques éditoriales très élaborées. Vous travaillez avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous cherchez aussi avec ces supports médiatiques-là, et qu'est-ce qui entre en patch avec ces choses très immémorielles et qui vous traversent?
On est quand même parfois dans des zones qui sont liées à l'indicible et au langage impossible, en fait. Et donc, on se trouve à des frontières où il s'agit d'essayer tout un tas de formes pour voir où va se faire la résonance, où va être possible le lien, le fait de se relier avec d'autres et faire langage collectif. L'idée de ce qu'on présente là, c'est très, très politique, à mon sens, parce qu'on n'est pas du tout dans une pratique de développement de soi, au sens où on peut l'entendre parfois. On est dans une recomposition de nos corps collectifs pour créer d'autres langages qui permettent d'autres possibles. Et c'est ce qu'on cherche, par exemple, dans l'intelligence artificielle, avec lequel on joue un peu en ce moment, sur Midjourney, voilà. En fait, c'est proposer une phrase d'hypnographie à l'intelligence artificielle et voir ce qu'elle nous propose en retour comme imagerie. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire de ce qu'elle possède comme données sur ce qui fait écho avec cette phrase. Alors parfois c'est très surprenant. Moi je dois avouer que ça m'a fait un effet assez particulier parce que ça a ouvert comme une vanne de vision visuelle que j'avais pas forcément envie d'avoir parce que c'est assez fort et puissant, on va dire. Et donc j'ai un peu refermé la porte, mais ça rejoint ce que tu disais encore sur l'imagerie chez Michaud ou le texte. C'est une autre façon de faire langage commun, à mon avis, potentiellement. Donc on essaye, en fait on teste, on expérimente beaucoup. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, je suis complètement d'accord. On, comme le dirait Emily Dickinson, on envoie la vague pour recevoir la vague. Quoi. On essaie de comprendre en fait.
Tu veux dire
on envoie la vague pour recevoir la vague. Ouais. En pratiquant une forme de conversation, en se plantant au milieu des matériaux et en essayant de voir toujours plus ce qui peut se passer. Quand on met en résonance à la fois la question de l'association d'idées, de la synesthésie, de la synesthésie, à la fois des lectures théoriques qu'on peut faire, on se plante au milieu d'un champ en essayant d'accompagner l'agencement qui se fait souvent sans nous et qu'on accompagne modestement. Il y a une tension aussi qui est intéressante, je trouve, en recourant à tous ces outils, entre la possibilité de dire ce qui nous arrive et le danger de dire ce qui nous arrive. La nécessité d'être lisible dans des espaces sociaux et amicaux, où on veut pouvoir également être lu, se faire comprendre, etc. Ce sont aussi des champs compétitifs, industriels, etc. Et en même temps, la tentation mystique de défaire continuellement ce qui a été fait. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de fuir en cherchant dans l'enquête, la quête... En fait, on le dit souvent avec Mélodie, mais notre quête, c'est vraiment l'enquête. C'est de se remettre en chemin de manière permanente en considérant dans la marche qu'être arrivé quelque part est un échec et qu'il faut pouvoir repartir sur la route, non pas pour trouver quelque chose qu'on chercherait, mais pour continuellement se transformer avec ce qui nous possède, avec les êtres qu'on rencontre, qu'on met parfois de côté et desquels il faut aussi pouvoir se protéger, j'insiste sur ce point.
Il y a un rapport au langage qui est inhérent au geste, justement, je pense. C'est-à-dire que dès lors qu'on parle du principe que c'est quelque chose qui passe à travers nous, ça ne nous appartient pas. Donc il s'agit de le remettre en circulation et à aucun moment de capitaliser dessus autant que possible, ce qui est très difficile, étant donné que les dispositifs sont tous construits comme ça. Donc l'idée d'effacer, d'être fantôme et de mettre des paravents, de cacher, d'exposer à certains moments, de jouer avec la lumière et l'ombre, fait partie, en fait, du mouvement...
Et c'est aussi ce qu'on peut entendre de manière peut-être plus, je dirais pas utilitariste, mais plus ciblée dans une vidéo de toi, Marc, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « T'es intelligent pour un arabe » et dont tu pourrais peut-être nous parler, parce qu'il y a aussi une partie de ton travail qui est un travail auto-ethnographique, et notamment sur la racialisation des corps sur Grindr, si je ne me trompe pas.
Et, oui, tout à fait.
Et peut-être tu peux... Parce que là, pour le coup, moi, quand j'ai découvert cette vidéo, tu donnes accès aussi à des réalités à laquelle d'autres n'ont pas accès et qui sont parfois d'une grande violence politique. Et tu le fais entendre en le réencodant, encore une fois, par la ASMR, quoi.
Oui, avec l'ASMR, c'était une manière d'utiliser une sorte d'esthétique grotesque, en fait. C'est-à-dire d'essayer de trouver l'écart optimal qui permettrait de faire entendre des phrases qui, dans les dispositifs de rencontre que j'utilise, des dispositifs gays, Grindr, Scruff, etc., sont inaudibles. C'est-à-dire, quand vous dites que vous êtes racialisé, que vous êtes fétichisé, parce que vous êtes arabe, noir, etc., bon, bah, généralement, les gars avec qui vous parlez ne voient pas le problème. Et en fait, non pas en décontextualisant, mais en redocumentant ces phrases-là et en les faisant entendre dans un dispositif comme YouTube et en ASMR, ça permet d'une part de rentrer dans le flux de ces formes-là, de pratiquer ce que Munoz, le théoricien queer, appelle la désidentification. C'est une manière de réutiliser les codes finalement des codes dominants pour s'y insérer et pour, poussant les coudes, faire entendre sa propre voix et trouver encore une fois cet espace dominant. Donc oui, en effet, j'ai réutilisé des phrases que j'entends systématiquement sur Grindr: t'es intelligent pour un arabe, tu dois être dominateur, tu dois être violent, domine-moi, viole-moi, etc. Bon, les clichés habituels sur les arabes et les noirs. Et donc l'une des manières finalement de les faire entendre, c'était de baisser la voix et d'amener, comme pour l'hypnographie, les individus à prêter une attention à ce qui était dit.
On l'écoute ?
Ouais.
On commence avec une phrase reçue l'année dernière, en guise de bonjour. T'es intelligent pour un arabe. T'es marocain ? T'es rebeu ? T'es libanais ? Tu dois être libanais, toi. Ils sont chauds, les libanais. Avec la guerre, ils doivent être sous les nerfs. Tu t'appelles vraiment Marc ? Mytho. 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 C'est toi que j'ai croisé. Blanc de sous-race inférieure. Moi, je kiffe les rebeux en survêt. Tu veux pas me violer dans ta cave?
Bon, les conditions d'écoute sont pas exactement ici celles de l'ASMR. Hein. Ça permet pas cette concentration. Je pense qu'on a. Je vous encourage à aller voir le travail, notamment tout ce qui est autour de ce travail sur l'intelligence artificielle, qui est assez nouveau. On le trouve sur Hypnographie, avec le Diaz Hypnographie sur compte Twitter.
Ouais,
enfin, moi, je le vois sur Twitter, mais
ouais, c'est sur Twitter, aussi... Instagram. Ouais, Facebook, voilà. Ouais.
Ok, merci beaucoup. On va en arriver à notre dernière séquence avec Laure Limongi, dont j'ai déjà dit qu'elle était venue parler d'un précédent livre dans une précédente radio brouhaha. Mais c'est vrai que en particulier un de tes livres, Anomalie des zones profondes du cerveau, dialogue vraiment de manière très étroite avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, notamment parce que c'est un livre qui a la structure d'un champignon et la forme d'un champignon, qu'il travaille à partir d'une maladie, l'algie vasculaire de la face, et qui à partir de là s'intéresse aussi à cette révolution psychopharmacologique qui a permis en partie d'y remédier, mais pas complètement, parce que ce qui permettrait d'y remédier, justement, c'est ce dont on parlait chez Michaud, c'est les psylos, le LSD, etc., etc. Peut-être tu veux rebondir peut-être sur ce qui a été dit à propos de Michaud et sur ces éléments-là qui concernent l'anomalie des zones profondes du cerveau.
Oui, en effet, beaucoup de liens avec ce qui a été dit, notamment avec ce que Marielle a raconté. Ce livre, Anomalie des zones profondes du cerveau, c'est vraiment un livre hybride. Et pour le coup, c'est un peu comme René Allendy, hein, journal d'un médecin malade. Je me suis un peu, moi-même, je souffre d'algie vasculaire de la face, donc je me suis un peu pris comme cobaye. Et à un moment, étant prise dans cet affect, j'ai vraiment fait une recherche, une enquête, à partir des médicaments connus, des médicaments interdits. Et à partir de là, ce tout petit morceau de ficelle a amené une énorme pelote qui a ouvert d'autres portes, la question de la connaissance, la question de la recherche, comment finalement on passe son temps, enfin, et ça touche plein d'autres domaines, hein, à faire des découvertes avec grand bruit, à dire non, maintenant c'est comme ça, les choses sont comme ça, c'est immuable, c'est comme ça, et puis 10 ans plus tard, bam, notamment en archéologie, il y a quelqu'un qui découvre un truc et qui dit ah non, désolé, c'était pas comme ça, en fait, on vient de contredire la recherche précédente. Et en médecine, ça fonctionne aussi beaucoup comme ça, la recherche, effectivement, sur tous les médicaments, j'allais dire psychédéliques, en tout cas les substances psychédéliques qui ont été arrêtées, etc. Donc voilà, dans ce livre, il y a un petit peu tout ça, avec un fil conducteur qui est cette question de la maladie, avec aussi un récit. Et quand tu disais que ça avait la forme d'un champignon, quand je me suis un peu posé la question de la forme, évidemment, Deleuze n'est jamais loin avec son rhizome, mais pour moi, la forme du mycélium, qui est comme une espèce de proto-internet, hein, donc essayer de traduire cette forme-là littéralement m'a semblé vraiment, vraiment adéquate.
Et est-ce que c'est pour ça, d'ailleurs, parce que tu as fait ce livre, au fond, tu as fait un livre sur la maladie,
oui.
Complètement, est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu arrives à un nouveau projet qui semble complètement aux antipodes de cela, mais qui est en même temps, j'imagine, tout à fait relié, qui est de te prétendre être la responsable du service des panacées. Donc, qu'est-ce qu'il en est exactement ?
Alors, je ne sais pas si c'est lié au précédent, mais voilà, je pense que tout est forcément... c'est compliqué de savoir ce qui est lié et ce qui n'est pas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai un corps qui parle beaucoup. Donc voilà, ça m'a un petit peu amené à créer ce service des panacées. Alors, c'est un petit peu une avant-première intersidérale ce soir, hein, puisque je suis en plein dans la recherche. Donc, c'est la première fois que je le présente ici. Donc, en fait, l'idée, c'est de proposer des consultations pendant lesquelles, au cours d'un échange, je vais prescrire des livres. Alors, évidemment, ça a un lien avec la bibliothérapie, hein, qu'on connaît déjà telle qu'elle a été définie, notamment par Marc-Alain Wachmin en 1994. Mais pour ma part, c'est bien une entreprise littéraire et de performance. Je ne me situe pas dans la bibliothérapie, je ne suis pas thérapeute. Donc, si la guérison advient, on pourra vraiment dire après Lacan que c'est par surcroît. Ça ne sera pas forcément de ma faute. Je pourrais aussi me dire thérapoète, hein, qui est un terme qui est diversement utilisé par plusieurs autres poètes et écrivains. Pour ma part, j'utilise aussi le terme, mais de façon générique, hein, puisque ça allie la thérapia, le soin et la poésie. La poésie, on le sait que ça vient de poéienne, donc du faire. Donc voilà, moi je suis vraiment la thérapeute qui a une action sur la lettre et sur le corps. Alors au début de ce projet, il y a surtout l'idée de partir du mot, du verbe, du son. Et donc je dirais davantage que j'essaye de faire un travail de brocanteuse en étymologie.
Ce que tu as fait dans un précédent livre.
Oui, je le fais beaucoup. En fait, ouais. J'ai été lexicographe il y a plus de 20 ans. Je viens de réaliser que c'était il y a longtemps maintenant. Et c'est toujours resté, voilà, cette espèce d'attention à l'étymologie. Parce que dans chaque mot, si on y prête attention et si on ralentit notre rythme, on peut avoir 1000 histoires. Et c'est assez chouette quand on y pense, de se dire que voilà, n'importe quelle phrase peut amener très très loin. Et donc là, me rapproche de l'étymologie à nouveau dans ce projet-là. Évidemment, c'est aussi proche, hein, de Marc-Alain Wachmin, puisque lui, c'est un philosophe interprète du Talmud. Donc, il est vraiment à l'écoute du soin et des lettres. Donc, moi, justement, dans ce traitement-là, l'idée, c'est d'être vraiment proche, très proche du mot et du son. Tout comme un praticien en médecine, hein, va avoir des connaissances dans les domaines moléculaires ou va commander des analyses biologiques. C'est à peu près pareil. Alors, par exemple, si on prend l'étymologie de thérapeute... donc il y a thérapie, hein, thérapeia, qui est intéressante. Alors c'est une étymologie qui est évidemment controversée, c'est ça qui est drôle dans les recherches d'étymologie, c'est que des gens se disputent vraiment très très fort en général. Alors là j'ai suivi Jean-Victor Vergne, qui se réfère au dictionnaire complet d'Homère et des Homérides, qui date de 1841. Et lui, il évoque un rapprochement étymologique avec théro, qui veut dire chauffer, mais en donnant à ce mot le sens du latin foveo, donc c'est un sens concret de tenir au chaud, et qui est passé au sens figuré de entouré de prévenance. Donc le thérapeute, ça serait celui qui est voué au service de quelqu'un, celui qui allume le feu. Et donc théro, ça serait vraiment le feu. Donc dans mon thérapoète, ça serait vraiment l'idée de faire le feu, de susciter le feu. Donc contrairement aux remèdes qui sont habituellement utilisés, je ne cherche pas du tout à calmer le feu, mais bien à favoriser le feu. On pourrait dire que je me place sous l'égide de John Giorno, qu'on connaît bien ici au Festival Extra. Hein. C'est « You got to burn to shine », il faut brûler pour briller. Donc il n'y a pas de livre anti-inflammatoire, il n'y a que des livres inflammatoires, enfin à mon sens. Alors ça ne veut pas dire que des livres ne peuvent pas apaiser, les choses sont bien sûr plus complexes que ça, mais moi je ne vais pas être dans le « feel good book hein, », ça ne m'intéresse pas forcément, ça va être le « feel deep book », vraiment, vraiment quelque chose de très proche d'une sensation beaucoup plus profonde. Il y a aussi l'étymologie de soigner qui est intéressante et qui devrait parler à Muriel, je pense, puisque selon le CNRTL, songer et soigner remonteraient au même étymon latin, le somniare, de rêver, avoir un songe, voir en rêve, rêver que. Donc en fait, penser, soigner, songer serait dans une relation ternaire où soigner a le rôle d'intermédiaire entre penser et songer. Donc il y a vraiment le rêve au centre du soin. Donc à l'origine de la démarche du feu, il y a aussi ce rêve qui se situe dans le soin. Et puis aussi, évidemment, je me suis posé la question de l'objet général hein, d'une thérapie performative par les livres. Puisque donc la médecine, l'objet de la médecine, si on prend toutes les définitions, hein, c'est de lutter contre la maladie. Et d'après mon analyse, l'élément général qui peut créer une perturbation de l'être et donc mener au trouble et à la maladie, c'est le rapport au temps. Donc un rapport qui est vicié au temps. Bon, en la matière, on le sait, hein, notre époque est propice en pièges, en faux semblants, en écrans, en distractions publicitaires, en choses très très chronophages, etc. Et en autres divertissements, hein, puisqu'il faut toujours citer Pascal à un moment, donc ça c'est fait. Donc mon rôle de délégué du service des panacées est d'aider chacun et chacune à prendre soin du temps et à prendre soin de son propre temps. Marc-Alain Wachnin arrive à la même conclusion. Mais lui, il passe par une analyse qui fait référence au thérapeute d'Alexandrie du 1er siècle, puisqu'il écrit, je le cite, « Dès lors, la thérapeia, la thérapie, est toujours une chronothérapie, et les maladies des chronopathologies. Le temps mort, l'absence de passé, la perte de la capacité de se projeter dans le futur, d'anticiper, sont des maladies du temps, mais aussi le temps de la maladie. » Donc moi, je fais le postulat que la prescription de livres reconfigure le rapport au temps et qu'elle peut extraire de la pathologie. En fait, on est pris dans les raies d'une succession temporelle, tous et toutes. Donc, soyez en passant, les théories quantiques ont tendance à contredire cette vision chronologique, mais on ne va pas se lancer dans le quantique maintenant, puisque l'émission elle est bien soumise au déroulement temporel. Mais je dirais que la consommation livresque, en proposant 1000 autres temporalités et en s'inscrivant elle-même dans une temporalité, aide à ressentir le temps de façon, disons, plus délectable. Ça serait un petit peu le but. On pourrait parler de plaisir du texte avec Barthes, d'Aubejoie avec Ponge, de la littérature rabelaisienne, des Hobby Horse de Laurence Sterne, bref, de tout ce qui place le jouir au centre de nos préoccupations. D'ailleurs, hier soir, il y a Yannick Hennel qui en a très bien parlé avec son livre « Trésorier payeur » qui vient de sortir, en termes de dépenses. Donc la lecture aide à se réapproprier le temps dans le sens d'une jouissance. Alors je suis vraiment au début hein, de tout ce travail-là, donc je vous présente un petit peu les grandes lignes de force. Et donc voilà, l'idée, j'en suis actuellement à me constituer une sorte de vidal d'ouvrage.
Donc en fait, c'est quand même le temps de la lecture comme interruption du temps mondain qui va servir de base thérapeutique.
Hein. Oui, ouais, aussi, ouais. Tout à fait.
Et du coup, quand même, juste avant qu'on passe à une petite expérience tous les deux, comment tu situes justement ton propre geste par rapport à tout ce qui se dit aujourd'hui sur le soin, le care, la littérature comme réparation, la littérature comme possibilité de réparer le monde, la littérature à visée thérapeutique? Est-ce que ton travail se situe aussi dans ce...
Je pense que pour ma part, il y a une posture qui est très subjective. C'est-à-dire qu'évidemment, je n'ai pas ni la prétention ni la folie de traduire les livres en réel, enfin voilà, vraiment en posologie réelle. Et c'est vraiment une façon de revisiter les choses. Voilà, après, je pense que ce qui se passera en face, je n'ai pas encore expérimenté, je ne sais pas. Mais à la limite, ce n'est pas mon objet. Moi, mon objet, c'est vraiment de faire une autre architecture avec cette architecture des livres.
Et dans toute la tradition littéraire, lorsqu'on pense la littérature comme pharmacon, remède et poison, on a surtout pensé au poison et pas beaucoup au remède quand même. Donc c'est aussi une manière d'inverser dans un anti-bovarisme, quichotisme,
oui,
que sais-je, pour remettre les choses du côté du remède et pas forcément du poison.
Oui, c'est vrai que cette représentation littéraire du livre négatif dans Madame Bovary, c'est vrai que c'est extrêmement... Enfin, il y a un passage, hélas, je ne m'en souviens plus, mais quand la belle-mère parle des romans qu'elle lit, enfin, on a l'impression qu'elle parle de cocaïne ou d'une substance terrible. Donc oui, je pense que particulièrement, enfin, c'est intemporel, mais particulièrement aujourd'hui, c'est important de remettre cette activité au cœur.
Alors, donc tu nous as demandé et tu m'as demandé si j'avais des troubles, si je souffrais des troubles. Et bon, il faut dire que j'étais complètement pris dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, je t'ai livré deux de mes troubles et tu vas me donner une prescription.
Oui, alors j'ai pris mon ordonnancier, hein, ouais. Donc je vais te faire une ordonnance du service des panacées. Je vais d'abord commencer, pardon, on s'était dit ça, que ça serait quand même assez intéressant, avant de passer à ton cas, d'essayer de faire une prescription générale de rentrée.
Ah oui, alors, je pensais voilà. Que ça viendrait après, pour que après tout le monde... Non, non, fais comme tu
comme
veux.
Tu...
Fais comme tu veux.
Non,
non, bon. Non, c'est très bien, prescription de rentrée.
Voilà, je commençais par là. Alors, c'est évidemment...
C'est pour tout le monde, hein, c'est pour votre rentrée aussi.
Voilà,
hein.
C'est l'ordonnance de rentrée. Alors, c'est évidemment une gageure, hein, voire une hérésie de tenter une prescription générale, hein, ça va de soi, c'est une grande logique. Mais je me suis dit, bon, on va essayer quelque chose. Hein, on va observer la conjoncture, on va essayer quelque chose. Donc, j'ai tenté de... Bon, ça pourrait aussi être infini. Hein, donc, je me suis dit, on va se limiter à deux propositions complémentaires. La première, c'est un livre de Goleal da Sapienza qui s'appelle « L'art de la joie », « L'arte della gioia », qui est un roman qui a été écrit entre 1967 et 1976, publié en Italie 2 ans après la mort de l'autrice en 1998, et en 2005 en France chez Viviane Ami, et qui est disponible au Tripode. Alors, comme son titre l'indique, cette vaste fresque de plus de 600 pages... C'est vraiment un monument d'euphorie, l'art de la joie. Mais attention, c'est pas pour autant un feel-good book. J'ai rien vraiment contre les feel-good books. Enfin, j'aime pas ça, mais voilà, là, c'est pas ça, en l'occurrence. C'est davantage un roman d'initiation dans lequel on suit la trajectoire d'une héroïne qui s'appelle Modesta. Elle porte assez mal son nom. Elle est née le 1er janvier 1900. Là, on voit tout l'humour de l'autrice, dans une maison pauvre d'un pays encore plus pauvre, hein, puisque c'est en Italie du Sud, et elle a une trajectoire édifiante, donc je ne vous en dis pas plus, mais on y découvre que Modesta ne s'encombre d'aucune règle, vise à s'émanciper, et cette émancipation, justement, passe par la lecture, l'apprentissage de l'histoire, de la philosophie, la pensée, la politique aussi beaucoup. Elle est vraiment, évidemment aux prises avec les événements de son époque. Et bien entendu, comme c'est une femme qui cherche à s'émanciper, elle a beaucoup d'obstacles. C'est un livre de joie, mais c'est un livre aussi où les difficultés ne sont pas du tout rasées. Donc c'est en ça que c'est un livre extrêmement précieux. Bon, je pourrais aussi le prescrire à Noël et à Pâques, mais là, on est dans la rentrée, donc je vous le propose à la rentrée.
Mais pourquoi tu trouves qu'on manque un peu de joie ?
Je pense que ça va faire du bien. Et puis aussi, c'est une figure, comme je disais, c'est une figure qui rencontre beaucoup de difficultés. Oui, elle a une forme de courage aussi, et une forme de classe toujours dans tous les événements. Mmh. Et de façon de chercher le plaisir, de chercher la joie dans chaque événement. Et ça, c'est quand même assez précieux dans les moments que nous vivons. Deuxième proposition, c'est un livre de Maurice Pons qui s'appelle « Les saisons », qui a été publié en 1965 chez Julliard et qui est aujourd'hui disponible chez Christian Bourgois. Alors c'est un roman qui est beaucoup plus court, qui se déroule dans une vallée reculée. Alors dans cette vallée reculée, il n'y a que 2 saisons. Chacune dure 40 mois, c'est un peu dur. Il y a 40 mois de pluie automnale ininterrompue et 40 mois d'hiver glacial. Il y a un homme qui débarque là, il s'appelle Siméon. On devine qu'il a vécu des choses très très dures, même carrément atroces, un petit peu plus loin. Donc il est heureux d'arriver là parce qu'il se dit qu'il va pouvoir connaître l'apaisement. Il est aussi laid qu'il a grand cœur et il est écrivain. Donc il arrive plein de fois en l'âme humaine. Alors je n'ai pas raconté la suite, mais je dirais que cette lecture constitue un éclairage sans concession sur les penchants de la société, les penchants extrêmes, les penchants d'exclusion qui ne sont jamais, hélas, très loin. Donc c'est, voilà, c'est une lecture recommandable. Par ailleurs, il fait tellement froid dans le livre... donc, puisque l'hiver dure 40 mois, que l'hiver qu'on va passer avec les pénuries éventuelles de carburant et les coupures peut-être d'électricité va nous sembler moins glacial, éventuellement. Donc c'est assez pratique, à mon avis, de le lire dans ce contexte. Donc évidemment, pour ces prescriptions qui sont très générales, je ne vais pas pouvoir donner de posologie, hein, vous m'en excuserez, mais ça ne serait vraiment pas très responsable. Donc voilà.
Donc maintenant, c'est moi, en fait. Voilà. C'est moi le cobaye.
Donc, on va passer à tes troubles. Donc, je demande toujours quels sont les 1 ou des troubles. Donc, très généreusement, Lionel, tu m'en as confié 3.
3 ?
Ouais. Ah, oui.
J'ai cru que c'était 2.
Non, il y en a 2,5, on va dire.
Okay.
Le premier, c'est l'hyper-responsabilité. Ouais. Donc, le fait de se croire responsable de tout, tout le temps. Bon, c'est une question vraiment ardue, hein, c'est que celle-ci. Donc, j'ai fait un traitement un petit peu composite, oui. Qui commencerait par un livre de Catherine Guérard qui s'appelle Renata N'importe quoi,
oui.
Qui a été publié chez Gallimard en 1967 et réédité en 2021 aux éditions du Chemin de Fer. Parce que l'héroïne, qui est bonne à tout faire, décide un jour de quitter ses patrons et de devenir, dans son vocabulaire, une libre. Elle se met à errer, sans but aucun. mais vraiment aucun but, même pas le fait de savoir où est-ce qu'elle va dormir 3 heures plus tard. Et elle est animée d'une radicalité extrême et parfois un peu pénible. Elle ne souhaite plus qu'être une passante dans le monde, elle ne veut plus être responsable de rien. Elle ne veut pas non plus qu'on soit responsable d'elle. Et Catherine Guérard déroule l'odyssée du personnage au sein d'une longue phrase qui est ponctuée de quelques virgules et de quelques majuscules. Donc ma posologie pour ce livre, ça serait l'intégralité de l'ouvrage, évidemment, avec une prise, je dirais à chaque fois, de 6 à 20 pages, selon le temps imparti que tu as, parce qu'évidemment, il faut penser à ça. Et je dirais plutôt, dans la journée, pas après 17 heures, parce qu'il y a un effet excitant possible de la lecture. Catherine Guérard, ça serait plutôt avant 15 heures. Si c'est possible pour toi de le faire, ça serait, je pense, bénéfique. En tout cas, tout le livre...
Tu me feras une ordonnance.
Oui, bien sûr, je vais tout recopier. Là, je ne fais pas trop pour tenir l'émission, mais je vais la recopier tout à l'heure. Alors, ma deuxième livre pour cette affection, donc l'hyper-responsabilité, ça serait un livre de Leslie Kaplan, qui s'appelle Depuis maintenant, Miss Nobody Knows, publié chez POL en 96. Alors là encore, c'est un personnage en rupture, hein, Miss Nobody Knows, donc il y a ce nom donné par la narratrice. Mais à la différence du livre de Catherine Guérard, elle est prise dans un contexte historique, puisque c'est mai 68. Alors évidemment, la question de la responsabilité, elle est présente, hein, puisqu'il y a une responsabilité sociale, politique, etc. Mais justement, la présence du personnage de Miss Nobody Knows, c'est comme un grain de sable dans le rouage. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui peut vraiment se jouer, parce que tu es quand même dans un univers de responsabilité et de prise de conscience politique. Alors c'est un livre qui fait 110 pages. Donc moi, ce que j'aimerais te proposer, c'est un traitement de choc. Donc une prise un week-end, d'un coup, comme ça, et c'est très bien. Ça ira très bien.
Sans dormir, peut-être. Si, 110 pages, ça va.
110 pages, ça va. On est des grands lecteurs. Donc je pense, samedi ou dimanche, ça passe crème. Ça va être parfait.
Okay.
Alors, le dernier pour cette question de l'hyper-responsabilité...
Oui, traitement de choc. Là.
Ah oui, je pense que ça le justifie. Hein,
pas senti qu'il y avait crise.
Ah oui, il y a crise. Donc c'est le livre de Stéphanie Solinas qui s'appelle « Le guide du pourquoi pas ». Qui a été publiée au Seuil chez Fiction et Compagnie en 2020, dans lequel il y a d'ailleurs elle évoque des cyanotypes d'elfes, on en reparlera. Et donc dans ce livre, l'artiste Stéphanie Solinas parcourt l'Islande avec une double lecture, une lecture scientifique et une lecture, on va dire, surnaturelle. Et c'est bien donc ce dernier aspect qui va pouvoir être utile, puisque dans cette terre des elfes que les Islandais nomment les gens cachés, toutes les entreprises peuvent être modifiées par eux, et donc les morts peuvent habiter le présent. Donc on peut vraiment s'interroger sur est-ce qu'on a vraiment un champ d'action réel dans la mesure où les gens cachés peuvent tout changer. Alors je te cite un très très court dialogue qui va donner une idée. Donc c'est un dialogue qu'elle cite. Quelqu'un demande « Vous croyez tous aux elfes ?»« Non, aucun de nous n'y croit. » »« Alors pourquoi voulez-vous que je change la trajectoire d'une route ?»« Ben, pour faire économiser de l'argent à l'État islandais, avoir des ennuis avec les elfes coûte tellement cher. » Voilà. Donc ça donne une autre perspective d'action dans le monde. Alors la posologie pour ce livre-là, ça serait 3 pages le matin jusqu'à la fin de l'ouvrage. Donc ça peut t'accompagner.
Là c'est long. C'est
oui, mais je me dis que c'est bien. Ça peut t'accompagner dans le temps. Mais après c'est aussi en interaction avec Leslie Kaplan et Catherine Guérard. Tu vois. Voilà, y a quelque chose quand même de une synergie qui va se faire.
Le cocktail peut être assez intéressant. Faut faire attention.
Alors la deuxième trouble. C'était l'ego fugique, donc le fuir le moi plutôt que de tenter de s'y confronter. Alors là, justement...
Je dis des choses de moi ici. Hein.
Totalement. Hein. Totalement. Et alors, je pense préférable de traiter un trouble après l'autre, à vrai dire, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a un lien de cause à effet possible entre les deux. Donc ce sentiment, entre le sentiment d'hyper-responsabilité et de l'effacement du moi. Alors, je pense que comme je t'ai donné quelque chose quand même assez puissant pour le premier, là j'aurais tendance à commencer par quelque chose qui est assez classique, hein, surtout que tu es chercheur en littérature, ça serait de reprendre simplement les essais de Montaigne, qui sont quand même une sorte de merveille absolue, et d'en lire un petit peu, un petit peu et très lentement, un peu en mode tai chi, avec un geste comme ça très très décomposé.
En slow motion.
Voilà, en slow motion pour que ça infuse, et on va voir comment ça se passe avec le premier traitement, parce que je ne voudrais pas quand même qu'il y ait trop d'interactions thérapeutiques. Et le dernier, oui, que tu avais nommé, c'était le trouble du sommeil.
Ouais, j'ai dit comme tous les lecteurs.
Voilà, alors certes, mais on peut quand même essayer. Alors, je me suis dit, bon, c'est quand même compliqué, comme tu as précisé, comme tous les lecteurs, de donner à nouveau une prescription de livre. Mais je me suis dit qu'il n'y avait peut-être pas essayé quelque chose qui est la poésie sonore.
Ah oui.
Alors, j'ai pensé à une œuvre de Bernard Hitzig qui s'appelle La poinçonneuse, qui a été réalisée en 1973 et éditée par Aldente en 2003, qui est une œuvre qui dure à peu près un quart d'heure. Donc moi je te propose de la passer comme ça au coucher pas trop fort, parce qu'il y a des moments quand même qui montent un peu au niveau sonore au milieu de l'œuvre. Mais je pense que entre l'histoire narrée et puis il y a un bruit de métro à l'ancienne comme ça qui peut assez bercer. Je crois que c'est une bonne manière de t'accompagner vers le sommeil, qui sera évidemment peuplé de démos de Bernard Haitink, mais c'est ce qu'on peut espérer de mieux, me semble-t-il, pour s'endormir.
Écoute, merci beaucoup, Laure. J'ai quand même un gros traitement.
Oui, je vais recopier ça. Ouais,
j'avais plusieurs. Il faut dire que j'avais plusieurs troubles aussi. J'ai quand même qui sont entièrement liés et qui sont pas mal liés au trouble collectif qui est le trouble de la rentrée que nous affrontons tous. Donc, merci à vous. Je vous encourage à voir Laure pour des prochaines prescriptions, puisque
on organisera ça en 2023.
Voilà. Et donc tu me les écriras sur une page. Alors on va s'arrêter là parce que il y a une autre activité derrière. Juste, je voulais dire un petit mot. Avant de finir, c'est que au moment de prévoir cette émission, j'ai demandé à mes amis Anne Pauli et Fanny Corral qui organisent, je fais de la pub, la Dyke Ménopause ce soir à La Folie à La Villette. Et on n'a pas besoin d'être dyke ni ménopausé pour y aller. Non, on peut y aller si on est une dyke non ménopausée ou si on n'est pas dyke d'ailleurs. Et je leur ai dit à quelle musique ça vous fait penser, puisque c'est un peu leur job, spirit, mescaline, fantôme, spectre. Et elles m'ont dit ça. Et moi, j'aime bien aussi.
Mon ordonnance.